bénisse. Nous allons prier. Père Céleste, c'est un grand privilège ce soir de nous retrouver en cet endroit. Tes enfants ont bravé le froid, mais tout simplement parce qu'ils veulent passer quelques moments autour de ta parole. Aussi, nous te demandons de bien vouloir la dispenser, la donner, l'inspirer, et qu'ils puissent recevoir quelque chose qui renouvelle leur force et leur courage encore pour ce chemin. Ils puissent braver les intempéries, le froid, les catastrophes, les tempêtes, toujours en restant debout par ta grâce. Nous te demandons de bien vouloir nous assister encore, nous pardonner nos péchés, nos fautes, nos manquements. Et nous comptons sur ta miséricorde pour cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. C'est pas chaud dehors. Ma parole de Dieu est un feu. Puisse-t-elle nous réchauffer. Demain, c'est vrai que ça n'a pas été annoncé. Il y a culte d'action de grâce. Donc, normalement, on essaiera de ne pas vous retenir trop longtemps. Pas un culte obligatoire. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous sentez que vous n'en avez pas la force, il n'y a pas de problème. Dieu, lui-même, c'est selon votre marche avec Dieu. Et c'est une initiative que nous faisons pendant que beaucoup auront peut-être la gueule de bois demain, après avoir bien mangé, bien bu. Nous restons frais pour nous assembler à nouveau. Écouter la parole, cela nous fait du bien. Leur bien à eux, dehors c'est le champagne, c'est la dinde, ce sont ces choses-là. Nous montrent bien à nous, c'est la parole de Dieu. Bien de quoi on peut parler aujourd'hui. Allez. On va parler de Mademoiselle Grâce. Nous lirons dans Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est une chose que nous devons toujours nous souvenir, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce sera le titre ce soir. Qui que nous soyons, quelle que soit la relation que nous pouvons avoir avec Dieu, si nous sommes sauvés, c'est uniquement par sa grâce. Le fait d'avoir un lien privilégié pour certains, ceux à qui Dieu parle quasi tous les jours, ceux qui entendent, qui voient des visions, qui ont des visions, qui ont des prophéties, de parler en langue, ou des prédicateurs, ou tout ce que vous voulez. Qu'importe qui que vous soyez, où vous êtes, si vous êtes sauvé, c'est par grâce. Moïse est un type de Christ, un type parfait de Christ. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais Moïse savait qu'il était né dans un but. Pardon. Et Moïse, il a essayé de délivrer les enfants d'Israël. Ça n'a pas marché. Il est parti dans le désert. Nous connaissons cela. Il a fui. Et puis Dieu est venu lui parler. Il lui a dit, écoute, je me suis souvenu de mes promesses et j'ai vu les souffrances de mes enfants, de mon peuple. Je suis descendu pour les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et Moïse, en marchant avec Dieu, Moïse avait cette relation privilégiée avec Dieu. Dans Nombre, chapitre 10, 12, pardon, chapitre 12, Moïse avait la patience, ce que beaucoup n'ont pas. Ça fait partie, c'est la cinquième qualité, je crois, de l'homme parfait. L'homme parfait est à la foi, la tempérance, la connaissance, je le dis peut-être en désordre, mais dans 2 Pierre, chapitre 1er, cela nous est donné. La patience vient en cinquième position. Après cela, il y a l'amour fraternel et puis il y a l'amour agapao. Et Moïse, nous voyons ici au verset 3 du chapitre 12 des Nombres, l'Éternel a entendu Marie et Aaron murmurer contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 3, et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse était très proche de la perfection. Parce que l'homme parfait, ça passe par la perfection, par la patience. Et il avait cette relation avec Dieu. Dieu dit ceci à Aaron et Marie. Verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Moïse était proche de la perfection. Il avait la fidélité également. La patience, la fidélité. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? On voit, donc nous pouvons dire qu'à Moïse, Dieu ne peut rien lui refuser. C'était vraiment un homme de Dieu. Mais Moïse, on pouvait dire que s'il arrivait pas, il arrivait en terre promise, ça allait être certainement de par sa sainteté, par ses qualités. Eh bien non. Pour entrer en terre promise, Moïse avait besoin de la grâce de Dieu. Or, le temps de la grâce n'était pas encore là. Ce qui signifie que ce Moïse, qui avait cette relation étroite avec le Seigneur, Moïse, Dieu ne lui a pas permis d'entrer. Alors, c'est Pierre qui dit cela dans 1 Pierre 4, je crois. Il dit, si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie ? Dans Deutéronome, Moïse avait tellement cette relation qu'il avait avec Dieu, qu'il pouvait penser, qu'il pouvait négocier avec Dieu. Pour ceux qui pensent que pouvaient négocier avec Dieu, la grâce, on ne l'obtient pas par négociation. La grâce, c'est un don gratuit. Pas besoin de négocier. Moïse va négocier. Lorsqu'il va voir cette belle terre promise qui est là, il va vouloir entrer. Deutéronome chapitre 3. Verset 21. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel, en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Tu m'as montré tellement de choses. Car quel Dieu y a-t-il aux cieux, au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Il n'y en a pas. Laisse-moi passer. Je te prie. Je te supplie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Après, tu peux me reprendre. Mais laisse-moi voir ça. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Tu n'entreras pas. Amen. Il n'est pas entré. Et à lui, à qui on avait confié, Dieu lui avait dit déjà dans Exode que tu conduiras le pays dans un pays où coule le miel, lui-même, Moïse, n'a pas pu entrer et il n'a pas fait entrer non plus le peuple d'Israël. Mais plus tard, Moïse va mourir. Quand Moïse va mourir, Satan pensait que parce que Moïse avait péché, pensait que Moïse, le corps de Moïse lui appartenait. Parce que le corps de Moïse avait péché. Et il a voulu aller le chercher. Mais il a dû être surpris, Satan, de voir que Dieu a envoyé Michaël dire « Va me le chercher ». Il est allé chercher Moïse dans Jude. Verset 9, nous voyons, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit, que le Seigneur te réprime. Vous voyez, le diable s'est disputé le corps de Moïse avec Michel, Michaël. Et Dieu n'a pas voulu. Tout simplement parce que le rachat de Moïse s'est fait à un moment donné. Et nous voyons Moïse aux côtés du Seigneur dans Matthieu 17. Après la réprimande qu'il a eue. Donc, le fait de ne pas entrer en terre promise ne montre pas que vous n'irez pas au ciel, non. Enfin, pour ceux qui devaient aller en terre promise. Tous les patriarches sont morts en Égypte. Marie et Aaron sont morts dans le désert. Mais, dans Apocalypse 5, on les revoit, les patriarches. Amen. Et pourtant, ils ne méritaient pas. C'est pour dire que la grâce de Dieu, elle surabonde. Dans Matthieu 17, Moïse est là, aux côtés du Seigneur. Verset 1er, « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. » Il fut 6 jours après, on voit bien qu'il s'agit du jour du Seigneur, le 7e jour. Ça va? Il fut transfiguré devant eux. C'est exactement la même vision que Jean va avoir dans Apocalypse chapitre 1er. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Les enfants d'Israël avaient pour habitude, quand ils discutaient avec le Seigneur, de se mettre toujours un peu côté Moïse, disant « Nous, nous sommes disciples de Moïse. » Nous, nous savons que la loi de Moïse dit ceci. Nous savons que Moïse a dit cela. Et cela ne vous fait pas entrer au ciel. Beaucoup aujourd'hui sont là, ils savent ce que Frère Branham a dit. Ils savent ce que Frère Branham a fait. Ils ont le nom du Frère Branham dans la bouche. Ils ont reçu le message du temps de la fin. Et ils croient que le fait de savoir ce que le frère Branham a fait, d'exalter ce que frère Branham a fait, avoir la photo du frère Branham dans l'assemblée ou chez soi ou quelque chose dans ce genre, c'est ça qui vous ouvrira les portes du ciel. Non. Il faut la grâce de Dieu. Et Dieu ne vous fait pas grâce parce que vous avez mis la photo de Moïse chez vous, ou celle du frère Branham, Dieu vous fait grâce parce qu'il a envie de vous faire grâce. Ça va? C'est un don tout à fait gratuit. Et quand Pierre va venir dire, voilà, faisons une tente pour Élie, pour Moïse, pour le Seigneur, Dieu va détourner le regard de Pierre, Jacques et Jean, d'enlever le regard vers Moïse et vers Élie. Et plutôt, ils fixent leur regard sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est plein de grâce. Jean chapitre 1er. Verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Moïse, en venant avec la loi, non seulement Moïse, la loi condamnait le monde entier, l'humanité entière. Jésus-Christ est venu vivant cette loi pour nous, afin que quiconque croit en lui reçoive de Dieu la grâce qu'il a besoin pour pouvoir être sauvé. C'est là où je l'ai souvent dit ici, Abraham dit ceci, ne regardez pas à Moïse, dites amen à ça, ne regardez pas à Élie. Et quand il dit ne regardez pas à Élie, il parle aussi de l'Élie de cet âge. Pas seulement l'Élie, le Tishbite, mais également l'Élie de cet âge. Ne regardez pas à Élie pour votre salut. Ne regardez pas à Moïse pour votre salut. Il dit, Élie, il représente la justice de Dieu. Élie, comme Jacques et Jean ont dit au Seigneur, veux-tu que nous faisions descendre le feu du ciel comme Élie l'a fait? Dieu, le Seigneur dit, moi, je ne suis pas venu perdre les âmes. Je suis venu pour les sauver. Les Samaritains, quand bien même ils m'ont refusé la porte de me laisser passer au travers de leur ville, eh bien, ce n'est pas grave, je suis quand même venu les sauver. Dieu vous sauve quand même. Ne regardez pas à Élie. Frère Branham ne vous sauvera pas. Frère Branham, je n'ai pas eu l'occasion de prendre cette citation, mais peut-être vous la connaissez. Alors, il passait devant un café où on jouait de la musique et tout. Il y avait un policier et des jeunes filles dedans, des jeunes femmes dedans. Et ils étaient là à faire n'importe quoi dans le café. Il a regardé dans le café ce qui se passait. Bon, aujourd'hui, c'est devenu quasiment normal. Mais dans les années 50, 60, c'était frappant. Il a regardé, il a pensé à ses enfants. Il a dit, ma fille Rebecca, ma fille Sarah... vont devoir subir ces choses, voir ces choses se passer. Seigneur, pourquoi est-ce que tu... L'Élie de ce temps. Pourquoi est-ce que tu ne brûles pas ce monde avec le péché qui y règne? Et Dieu lui montre sa vision du pare-choc qui empêche la colère de Dieu venir frapper la terre. D'abord, non seulement la terre, mais lui-même, pour ses propres péchés à lui. Vous voyez? Et c'est valable pour beaucoup. Moïse, il est venu avec la loi. C'est lui qui est venu avec la loi. Eh bien, la loi de Moïse ne lui a pas permis d'entrer. La loi ne vous permettra jamais d'entrer. Ce qui vous permet d'entrer, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. David, il était roi. Et le roi avait la responsabilité de faire appliquer la loi divine dans Israël. Il avait cette responsabilité-là. Le roi devait avoir une copie de la loi chez lui. Il devait la lire tous les jours. Il connaissait la loi. On ne pouvait pas être roi en Israël sans connaître la loi. C'est pour cela que quand vous lisez dans les rois, vous voyez toujours le commentaire biblique qui dit « Il fit ce qui est droit devant l'Éternel » ou bien « Il fit ce qui est mal devant l'Éternel ». Ils étaient censés savoir ce qui était bon et ce qui ne l'était pas. Dans Deutéronome 17, verset 14, nous est dit, lorsque, il est dit à Israël, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi. Déjà, Dieu leur dit cela bien avant. Et dans 1 Samuel, ils vont demander un roi. Et que je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Dites amen à ça. Il signifie, comme on a vu la semaine passée, il n'y a pas de hasard. Dieu contrôle les tirages au sort. Dieu contrôle également les élections. Quand vous élisez et qu'il y a un président quelque part ou un roi, ou bien le roi, on ne les élit pas, ils sont là par la naissance, ils n'en peuvent rien, c'est leur naissance qui leur donne ce statut, eh bien, ce n'est pas un hasard qu'ils sont là. Dieu les a mis là pour faire ce qu'ils sont exactement en train de faire. Il peut être bon, il peut être mauvais, mais ce qu'il fait, il le fait selon le plan de Dieu. Ça va? Ne blâmez pas, enfin, blâmez Poutine, ce qu'il fait, ben, ça peut embêter les gens, mais Dieu a voulu que ce soit Poutine qui soit là. En Israël, vous avez Netanyahou, Dieu a voulu que ce soit Netanyahou. Les élections n'échappent pas à Dieu. Et même si vous voulez tricher dans les élections, proclamer un autre qui n'a pas remporté les élections, c'est toujours selon le plan de Dieu. Vous ne faites rien sans le plan de Dieu. Alors, Dieu dit, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Dieu ne voulait pas qu'ils aillent prendre un roi étranger. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux. C'était l'armée dans le temps, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qui n'est pas un grand nombre de femmes. Allez dire ça à Salomon. Afin que son cœur ne se détourne point et qu'ils ne fassent pas de grands amas d'argent et d'or. Salomon a été prévenu et il en a eu beaucoup. Nous savons ce qui est arrivé. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Dites amen à ça. Qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. C'était le devoir du roi. Il devait lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Il devait être exemplaire, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Et Salomon, quand il règle le problème du bébé qui était contesté par deux femmes, c'était par la sagesse de Dieu. Chaque décision qu'ils prennent, c'est selon le plan de Dieu. Les fautes qu'ils commettent, c'est selon le plan de Dieu. Et David devait savoir ce qui lui était permis de faire et ce qui ne lui était pas permis de faire. Il connaissait la loi, tout comme les pharisiens connaissaient la loi. Jésus leur a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés, malgré qu'ils connaissaient la loi. Et David, quand il a commis sa faute avec Bathsheba, dans 2 Samuel 12, le prophète est venu lui raconter une histoire. 2 Samuel 12. Vous allez voir qu'il connaissait la loi. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. C'est la loi. Ce qu'il dit là, c'est la loi. Il connaissait la loi. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. C'est toujours la loi. Si vous lisez Exode 22, verset 1er, c'est la loi. C'est exactement la même loi que Zachée va énoncer. Et il tire la sentence en tant que roi, connaissant cela, il dit, cet homme mérite la mort. Ça montre que la grâce... Dieu seul fait grâce. L'homme, le même David va dire, connaissant cela, mais on va y arriver, il va le dire. David ne voulait pas tomber entre les mains des hommes. Tant que nous nous jugerons nous-mêmes, nous nous condamnerons tous. ne suivons jamais les condamnations des hommes. Ne suivons même pas les condamnations de nous-mêmes. Ce frère-là, il est perdu. Qu'est-ce que vous en savez? C'est peut-être vous le perdu. Nous sommes sauvés par grâce. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Donc, tu dois connaître la loi. Mais la grâce va intervenir. La grâce va intervenir au verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Et pourtant, il méritait la mort. C'est la grâce. David bénéficie ici de la grâce. Il va encore commettre des gaffes. Il va encore en commettre une. Dans 2 Samuel 24. Et là, il en a tiré une leçon que lorsque l'homme juge, c'est selon la loi. Et la loi, elle est sans miséricorde. Paul nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Pourquoi? Parce que Dieu est riche en miséricorde. Sans cela, nous étions tous morts. Mais par sa grâce, il nous a ressuscités, spirituellement parlant. Il nous a ressuscités ensemble, tous ensemble. Dans 2 Samuel 24, après sa faute, Dieu va lui envoyer Gad, cette fois-ci, le prophète. Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Sa miséricorde, elle est grande. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Moïse, il représente la loi. C'est pourquoi Dieu dit, la voix vient, tonne d'en haut. Ne regardez pas Moïse, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Lui, il est plein de grâce. Jésus lui-même a dit aux pharisiens, il leur a dit, moi je ne vous accuse pas, c'est Moïse qui vous accuse. Dans Jean 5. Verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Le message que vous dites avoir reçu, ça risque de vous accuser une fois là-bas. Remettez-vous à Jésus-Christ. Parce que ce message que nous avons reçu, il est pur, il est bien. Prenons le message, le pur message. Laissons les écureuils de côté, le poulet de côté. Mais prenons le pur message. Le message, si on le regarde purement, strictement, tel qu'il a été apporté, nous sommes tous condamnés. Aucun de nous ne sera enlevé. Mais, et qui nous accuse? C'est Branham. C'est Branham qui nous montre que nous ne sommes pas... Si vous avez déjà écouté, vous devez naître de nouveau. Vous allez voir que, en fait, le ciel, ce n'est pas pour vous. Mais Jésus-Christ, lui, vient avec un message de grâce. Il vient avec un message de grâce. Il dit, c'est vrai qu'il dit, mais moi, je vous dis que... Mais quand vous faites vos fautes, il dit, moi, je ne vous accuserai pas devant les pères. Au contraire, il parlera en votre faveur. Il est venu plein de grâce. Cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, dans Jean 8, il va dire ceci. Verset 9. Quand ils entendirent cela, puisqu'il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Vous savez, ils étaient venus avec l'accusation de Moïse. Au verset 5, ils disent, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. C'est un ordre de Moïse. On doit la lapider. Toi donc, que dis-tu? Alors, Jésus va le répondre. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Ça, c'est la grâce. Pour le péché que vous avez commis, le péché mignon que vous avez commis ou la chose que vous avez commise, ce n'est pas Jésus qui vous condamnera. Aussi, venez à lui. Écoutez-le. Suivez-le. Comptez sur lui. Comme nous chantons toujours, nous voulons compter sur sa grâce. Va et ne pêche plus. Et quand lui vous dit ça, cette parole vous donnera la force de ne plus pécher. Parce que c'est une parole qui sort de sa bouche et qui a cette puissance de création. Donc, va faire de vous un homme, une femme nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle, de telle manière que vous ne pécherez plus dans ce sens-là. Parce que la parole est sortie, la parole a été prononcée. Si Dieu dit seulement une seule parole, cette parole elle doit s'accomplir. Et si c'est une parole de grâce, Dieu soit loué. La justice de Dieu, par Élie, nous n'en voulons pas non plus. Le frère dit, nous ne voulons pas la justice de Dieu. Élie, il a commandé le feu du ciel pour exterminer des gens. Élisée, qui avait aussi l'esprit d'Élie, il a maudit des adolescents qui se moquaient de lui. Et ceux qui étaient maudits, eh ben, ils ont été happés par des ours sur le chemin, par des bêtes féroces. Jésus, on s'est moqué de lui. Jésus, on a dit tout ce qu'on a voulu. Mais du haut de la croix, il a encore dit, pardonne-leur. Il était tout entier la grâce. Et c'est sur lui que nous comptons. C'est lui notre sauveur. Or, lui, on n'a pas d'autre sauveur. Si nous devons compter sur quelqu'un pour être sauvé, c'est sur lui-même. Jean-Baptiste aussi avait l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste était là. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? D'ailleurs, la cognée est mise à la racine des arbres. Vous allez tous avoir la tête coupée. Heureusement que Dieu n'accomplissait pas la parole de Jean-Baptiste comme ça. Heureusement qu'il y a la parole de Christ qui dit « Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Ça, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, nous voulons bien sûr la chanter le plus souvent possible. Nous voulons bien sûr pénétrer dedans le plus souvent possible. Mais nous ne devons pas non plus en faire un sujet de dissolution. C'est-à-dire que maintenant, puisque c'est le temps de la grâce, je fais ce que je veux. Non, l'Esprit Saint nous est apporté justement pour que nous ne fassions plus ce que nous voulons. C'est pour cela qu'il répand l'Esprit sur nous. Et tout ce que nous avons fait auparavant, qui nous dirige droit vers la perdition, tout cela, Dieu a effacé cela. Par sa grâce, parce qu'il est riche en miséricorde, il nous pardonne. Et nous ne comptons pas sur Moïse. Moïse lui-même n'a pas pu se sauver lui-même. Amen. David n'a pas pu se sauver lui-même. Personne n'a pu se sauver lui-même. Regardons ce qu'il y a dans les Écritures. Personne n'a pu se sauver lui-même. Dieu seul, par sa grâce, lorsqu'il nous a envoyé son Fils, Dieu nous a manifesté sa grâce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons chanter qu'il nous a sauvés. S'il nous a sauvés, nous pouvons le remercier. Et c'est pour cela que nous serons là demain, pour le salut qu'il nous donne, ce salut joyeux qu'il nous donne. N'est-ce pas? Pour ceux qui veulent venir lui dire merci, Dieu a fait beaucoup de choses pour nous, des choses que nous ne méritons pas. Il nous a donné beaucoup de choses. L'année se termine. On a eu des bonnes et des choses moins bonnes, ça c'est sûr. Mais par sa grâce, nous sommes toujours debout. L'année est en train de se terminer, cette année-ci. Nos années ne concordent pas avec l'année, les années de Dieu, mais ce n'est pas grave. Mais ça montre tout simplement que le temps passe. Si le temps passe et que nous sommes encore là, chaque jour que Dieu donne, nous disons merci. Amen. C'est un jour de grâce. Vous savez, quand vous avez des êtres chers qui sont sur la corde raide, soit ils tombent à gauche, soit ils tombent à droite, mais qu'ils sont toujours sur la corde, et chaque fois qu'on vient de vous demander, alors ça va? Moi, je dis toujours, tu sais, quand Dieu donne un jour, je prends. Et si ça doit prendre 1 000 jours, tant mieux. Si ça doit prendre 10 000 jours, tant mieux. Mais chaque jour, je prends. Je prends ça comme une grâce. Ce n'est pas parce que j'ai 20 ans aujourd'hui que j'ai le droit encore de vivre 50 ans. Ça dépend de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai 80 ans aujourd'hui que je n'ai plus droit à 10 ans. Ça dépend de Dieu. Dieu seul est souverain. Amen. Et nous lui disons merci pour cela. Que Dieu vous bénisse. Les années se rajoutent. Ne vieillissez pas. Dans la tête, ne vieillissez pas. Dites seulement, merci Seigneur pour cette année que tu m'as donnée. Je la prends. Maintenant, une autre vient. Si tu me la donnes, je la prendrai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux compter sur sa grâce, frère Tombeau, et puis nous allons prier.
Que sa grâce, Seigneur, pour les murs, que de grands et de grands.
A donné une année, tu la couronnes, tu la couronnes de ta bonté. Nous avons atteint un certain âge pour la plupart. Il nous est dit que les jours de l'homme vont jusqu'à 70 ans. 70 ans, nous les avons eus. Aujourd'hui, cette année se termine. Et nous réalisons que nous sommes encore de ce côté-ci du temps. Nous voulons t'exprimer notre entière reconnaissance pour cela. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos bien-aimés qui sont ici. Selon ce que nous entendons, nous avons entendu ce qui se passe autour de nous. D'autres plus jeunes, moins âgés que nous, ne sont plus de ce côté-ci. Mais à nous, tu nous as fait la grâce de tenir debout. Non seulement nous-mêmes, mais les nôtres pour lesquels nous t'avons demandé. L'année est en train de se terminer. Le temps passe. Ce temps qui passe, nous voulons le mettre à profit pour nous rapprocher encore davantage de toi. Nous ne voulons pas regarder à nos mérites, à nos forces, ni même parce que nous avons des relations privilégiées. Balaam avait des relations privilégiées, mais il nous a dit que la voie de Balaam était une voie de perdition. Et pourtant, il entendait les oracles de Dieu. Il avait des visions. Disons combien tu as été bon pour nous. Nous voulons pas juste passer ce temps à faire n'importe quoi, mais nous voulons mettre ce temps à profit. Nous rapprochant de toi, mieux te connaître, t'apporter les hommages qui te reviennent. L'adoration qui te revient. Proclamer la louange de ton saint nom. T'exalter, t'acclamer, parce que tu en es digne. Tu es notre soutien. Tu es celui sur qui nous comptons. Et nous comptons sur ta conduite, sur la conduite que tu fais avec chacun d'entre nous, au travers des prédications, au travers des exhortations, au travers de ta création, selon ce que bon te semble. Mais ce que nous voulons, c'est que nous ne soyons pas distraits, mais que nous puissions comprendre exactement ce que tu attends de nous. Cela, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit que tu as promis, parce qu'ils sont les choses de Dieu qui nous conduisent. L'année s'achève. Te remercions pour cette assemblée. Nous avons tenu le coup, l'assemblée a tenu le coup, dans les frais, dans les tempêtes, dans les besoins. Nous avons adoré dans cette salle, nous avons prié dans cette salle, nous avons chanté. Et cette salle nous est toujours disponible. Oh, nous t'en remercions. Maintenant, nous nous en remettons à toi. En ce lieu pour te louer, que tu les bénisses, que tu leur parles, que tu te manifestes à eux. Tous ceux qui nous suivent au travers des ondes, que tu tu sois avec eux. Envoie-nous de vrais prédicateurs que tu as appelés pour nous apporter la parole. Nous ne demandons pas de bons orateurs, nous demandons des appelés de Dieu qui viennent nous parler de ta part pour notre édification. Bénis tes enfants, ceux qui sont là et ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui ont des obligations familiales ou professionnelles en ce jour, que tu les bénisses pendant que le monde est en effervescence. Tout ce que eux, ils appellent des fêtes, nous voulons demeurer avec toi. Si le monde t'oublie, nous voulons être de ceux qui ne t'oublient pas. Dans ce jour, chante de concert avec les anges, avec les êtres célestes. Accompagne chacun de nous dans sa maison. Si tu tardes à venir, nous comptons encore nous réunir demain pour te dire merci pour toutes tes bontés.